je dois commencer en disant que c'est une véritable chance que d'avoir été invité à cette table ronde, parce que sans cela, je ne serais peut-être pas risqué à la lecture de cet ouvrage de 1000 pages. C'est un ouvrage palpitant, d'une très grande richesse, non seulement du point de vue de description de droit positif, mais parce qu'on y lit sous-jacente des aperçus de théorie du droit, aussi une vision de ce qu'est le droit administratif. Et on y trouve aussi des analyses idéologiques, historiques, mythologiques, qui apportent sur de très nombreux points des éclairages capitaux. Et on sent surtout que l'auteur réfléchit, ce qui est rare en général. Souvent dans les ouvrages juridiques, l'auteur reproduit. Mais ici, on sent un auteur qui réfléchit, et si l'auteur réfléchit, évidemment, cela amène le lecteur à réfléchir. Ce qui est le plus grand service qu'il peut lui rendre, en fait. Je vais poursuivre ces réflexions. Je ne vais pas, au fond, me comporter comme une soutenance de thèse. Ce n'est vraiment pas le but de la table ronde. Mais poursuivre certaines réflexions en les joignant aux miennes sur trois points. Le premier à rapport au droit administratif comparé, les deux autres à la théorie du droit. Mais j'aimerais dire préalablement que, au fond, le droit administratif est, à mon avis, mais c'est un avis évidemment intéressé, la discipline juridique la plus passionnante. Elle est passionnante parce que le droit administratif est un droit qui s'applique, comme vous le soulignez très souvent à juste titre, très très souvent, et c'est assez rare dans les ouvrages de droit administratif, le droit administratif est un droit de l'action. C'est un droit qui régit des actions, et ces actions sont dirigées vers des finalités. Et au fond, ça met l'administrativiste en rapport avec un tas de disciplines différentes. Là, je ne partagerai pas votre méfiance par rapport à l'interdisciplinarité. On est obligé de connaître un peu l'urbanisme, de connaître un peu... Sans ça, on ne comprend pas simplement ce que signifient les législations de droit administratif. C'est une première raison, c'est d'éveiller la curiosité vis-à-vis de l'extérieur du droit. La seconde raison tient à l'histoire, son développement. Bon, il s'est développé parce que partout, à l'époque du triomphe du positivisme légaliste, mais en fait, il ne s'est pas du tout développé selon le positivisme légaliste. Il s'est développé grâce à la jurisprudence, grâce à la doctrine, qui petit à petit ont forgé ce que nous appelons aujourd'hui le droit administratif. Donc, le premier point concernant le droit comparé. Bon, j'ai longtemps hésité, mais finalement, je me suis dit, je ne vais pas jouer au huron comparatiste, parce que ça nous mènera à des choses extrêmement techniques sur l'effet suspensif, sur les mesures provisionnelles, etc., qui ne sont pas d'un intérêt capital. Mais je voudrais dire comme huron, et non pas comme comparatiste, ce qui m'a frappé, c'est l'insistance sur le fait que le droit administratif est quelque chose de spécifique. On retrouve constamment une allusion à la spécificité du droit français, où on trouve la précision, le droit administratif français. Je ne suis pas toujours convaincu par ces spécificités, je voudrais vexer personne, reprochant aux Français, au droit français de ne pas être aussi original qu'ils le pensent. Mais, par exemple, si je prends l'interprétation du principe de l'égalité, ces deux aspects, on la retrouve dans les droits que j'appelle germaniques, c'est-à-dire un ensemble formé de l'Allemagne, l'Autriche et de la Suisse. On les trouve sous les mêmes aspects. Mais c'est vrai qu'il existe des spécificités. Il y a une spécificité qui m'a beaucoup frappé. C'est la référence constante à la nation avec un N majuscule et au souverain avec un S majuscule. Je trouve ces références où je ne sais pas si on peut utiliser véritablement juridiquement si ce sont des concepts juridiques. En tout cas, il me semble qu'en droit allemand, on n'utilise pas ce genre de concept, en droit suisse non plus. Et je me demande s'ils ne sont pas un peu encombrants. Et ça me rappelle, peut-être je ferai une analogie comparatiste avec le droit américain. Parce qu'il y a je trouve dans aucun ouvrage de droit allemand ou de droit suisse ou de droit autrichien des références à des événements fondateurs vieux de 200 ans. Il n'y a pas de loi de Fructidor en droit suisse ou en droit allemand. Et on ne cite pas Tourier, hein, un homme politique, Tourier, constituant ou de la, membre de la Convention, je ne me rappelle pas. Oh. L'analogie, c'est avec les Américains. Parce que les Américains, eux aussi, citent constamment les pères fondateurs. Donc des hommes politiques qui ont écrit à la fin du XVIIIe siècle. Et je me suis posé la question sur l'utilité de ces mythes en tant que mythes. Bon, il n'existe pas en droit allemand ou en droit italien, mais peut-être parce que ce sont des droits du point de vue de leur structure d'état de droit récent. Donc, ils n'ont pas eu besoin de droit. Peut-être qu'en France et aux États-Unis, il y a eu un besoin de ces mythes pour assurer une continuité historique légitimante à partir d'un événement révolutionnaire, un peu comme si. Je m'excuse, une comparaison tout à fait non pertinente, comme si une poule avait pondu un œuf en 1789 et que cet œuf avait magnifiquement grandi, malgré tous les bouleversements politiques que la France a connus pendant tout le 19e siècle. Et il a fallu, au fond, avoir des mythes pour assurer une continuité. Aux États-Unis, je pense qu'il y a aussi une portée mythique avec les immigrations massives qui ont été autant de bouleversements. Mais sur bien des points, la spécificité ne me semble pas aussi grande. Par exemple, la dualité de juridiction, qui est toujours mise en avant. Mais dans les pays que j'appelle germaniques, il y a aussi une dualité de juridiction du point de vue fonctionnel. Pas du point de vue organique, mais du point de vue fonctionnel. Il y a des tribunaux administratifs, ou bien s'il n'y a pas de tribunaux administratifs, il y a des cours dans les tribunaux généraux qui s'occupent uniquement du contentieux de droit public. Il y a des voies de droit spécifiques, il y a des voies de droit qui sont exactement organisées comme le recours pour excès de pouvoir. Donc, fonctionnellement, il y a aussi dualité de juridiction. Les mêmes problèmes se posent, c'est-à-dire distinction de droit public, droit privé, définition des actes attaquables, définition du pouvoir d'examen du juge, etc. etc. Donc, on pourrait faire la même observation pour le concept de service public ou pour le principe de proportionnalité qui est légèrement, dont la portée est définie un peu différemment en droit français et dans les droits germanique. Là, je me demande si, au lieu de pointer les, quand on fait du droit comparé, au lieu de pointer les différences, on ne devrait pas essayer de construire une espèce de droit administratif commun à l'Europe, sauf évidemment le pays où on circule à gauche et où on vote le Brexit, mais un droit administratif commun sur le fond duquel on pourrait faire mettre en évidence les différences. Et non pas faire en quelque sorte l'inverse, voir dans chaque ordre juridique les idiosyncrasies, et puis de voir, ah, mais sur certains points, il y a coïncidence. Voilà pour mes réflexions de droit comparé. La deuxième partie de mon intervention, elle m'est venue à l'esprit en lisant les deux développements consacrés au déclin de la loi. C'est intéressant cette notion de déclin de la loi et d'en analyser si effectivement il y a déclin. Je pense qu'on peut dire qu'il y a déclin, mais il s'agit de savoir par rapport à quelle image de la loi il y a déclin. La loi, ce n'est pas un idéal platonicien. Alors, je pense que je vais dire deux, trois banalités pour commencer. Depuis 50 ans, il y a un incroyable un incroyable accroissement des interventions de l'État dans tous les domaines de la vie sociale, économique, écologique, etc. Et ces interventions ont ceci de caractéristique, c'est que la juridicisation de ces interventions obéit à une double détermination. Quand on élabore la loi, d'une part, c'est la détermination juridique, il faut les mettre en forme juridique, avoir une mettre dire si on veut avoir une décision ou un contrat, etc., etc. Ça, c'est le travail du juriste. Mais on a aussi une détermination que j'appellerais substantielle. C'est celle qui vient de l'extérieur, c'est-à-dire des caractéristiques du champ dans lequel l'État intervient, et des nécessités purement matérielles, pas juridiques, d'assurer la réussite de l'action. Donc, une double détermination, et cette double détermination a plusieurs conséquences. La plus anecdotique, mais pas la moins importante, peut-être, c'est que beaucoup de lois sont aujourd'hui rédigées non pas par des juristes, mais par des économistes, des chimistes, des biologistes, des urbanistes, et le juriste vient après pour habiller tout cela juridiquement. Cela amène aussi des spécialisations juridiques. J'entends par là, il y a maintenant de plus en plus, il y a le droit de l'énergie, le droit de la consommation, le droit de X, Y et Z. Au risque, et même d'ailleurs dans les masters, si je regarde les politiques universitaires, les masters hyper spécialisés font florence. Et ma crainte, c'est que le droit administratif, et je parle encore, il faudra encore que j'ajoute les autorités indépendantes, qui sont aussi des fragmentations de jurisprudence pas toujours très conformes au droit administratif général. Si le droit administratif se fragmente, on peut se demander ce qui va devenir d'un droit administratif général. Qu'est-ce qui peut encore rester général ? Autre conséquence du déclin de cette double détermination, c'est que la loi fait partie d'un ensemble plus vaste d'instruments. À côté de l'activité législative, il y a l'activité financière, les subventions, les activités incitatives, les activités d'information, et tout cela forme un ensemble qu'on appelle depuis quelques années des politiques publiques. La loi est une partie, un élément de la politique publique. Et cette politique publique, elle va être évaluée avec des indicateurs. On peut être pour ou contre ces évaluations. Quelquefois, elles sont faites un peu n'importe comment. Ça, c'est un autre problème. Mais on évalue parce que le droit administratif est en quelque sorte soumis à une obligation, que je dirais, de résultat. Et si on évalue, c'est pour mettre en évidence les insuffisances, les failles, les lacunes. Et chaque fois qu'on constate une insuffisance, une faille, une lacune, on retourne chez le législateur en lui disant « il faut corriger parce que ça ne va pas ce que tu as fait ». Et encore une dernière conséquence, cette double détermination, l'adéquation au terrain, c'est-à-dire le pouvoir de l'administration d'agir de manière adéquate, exige évidemment une certaine souplesse, parce que chaque situation a son idiosyncrasie et ne peut pas être transformée en critères généraux et abstraits qu'on peut mettre dans des lois. Donc, cela implique que le législateur laisse à l'administration une liberté suffisante pour agir de manière efficace, effective et efficiente. De telle sorte que on a une multiplication de ce qu'on appelle en droit allemand les notions juridiques indéterminées. D'ailleurs, je crois que la terminologie, d'après ce que j'ai pu voir, existe aussi. Mais je reviendrai sur ce point pour le droit français. Donc, c'est au moment de l'application, au moment de la mise en œuvre, soit réglementaire, soit par voie de décision, que ces notions juridiques indéterminées prennent sens. Avant, on ne sait pas ce que c'est. Si le législateur dit état, il faut prendre selon l'état de la technique, ou bien il faut que la mesure soit économiquement supportable, ça ne veut pas dire grand-chose. Et c'est aux échelons inférieurs que l'on a un sens. Alors, ce qui fait qu'on assiste à une inversion normative. Le sens vient du bas, et non plus tellement du haut. Le haut sert de cadre, de référence, mais le véritable sens vient du bas. Je ne sais pas si j'ai encore du temps. Oui. Dernière question sur laquelle j'aimerais revenir, c'est une question d'épistémologie. Je partirai du concept de source du droit. Ça m'a frappé qu'au début de votre livre, vous ayez éprouvé le besoin de justifier que vous commenciez par les sources du droit. C'est assez paradoxal, parce que si on a besoin de justifier quelque chose, c'est que ce n'est vraiment pas clair et qu'on aurait aimé peut-être faire autrement. Et quelquefois, on a une certaine distance critique, justement dans cet exposé des sources du droit, quand vous qualifiez le normativisme, ce courant qui professe, j'aime bien ce « professe », ou bien c'est une construction purement spéculative. Alors, si je m'arrête au fond, pourquoi critiquer le normativisme? À mon sens, d'ailleurs le réalisme aussi, parce que c'est simplement une question de savoir qui est compétent pour adopter les normes. Et, à part cela, je pense à la même structure de raisonnement par rapport à la norme comme caractérisant l'édifice juridique. Au fond, le normativisme porte toute son attention sur la norme et l'interprétation de la norme. Et ce que c'est manifeste chez Kelsen, il n'y a pas un mot sur l'application, c'est-à-dire sur la concrétisation. Qu'est-ce qui se passe dans l'opération qui consiste à passer d'un texte général à l'individualisation dans ce texte général? Si je prends le fameux pseudo-syllogisme dit judiciaire, en fait, ce qui fait problème pour tout juriste, ce n'est pas du tout la majeure, ce n'est pas du tout comment passe la majeure à la conclusion. Le problème, c'est l'établissement de la mineure. Et c'est ça qui occupe constamment les juristes. Ils parlent toujours des mineurs du syllogisme, parce que c'est là le problème qu'ils ont à résoudre. Par exemple, est-ce que c'est un acte fautif? Est-ce que le médecin qui fait ceci ou cela a accompli un acte fautif? Alors on dit, le médecin n'a pas, les règles de l'art disent que si on devient anesthésie, il faut faire ceci ou cela. C'est mineur par rapport au syllogisme. Ben, si on dit, il y a un monument digne d'intérêt lorsqu'il représente le patrimoine industriel, c'est aussi une mineure du syllogisme par rapport à la norme qui dit qu'il faut protéger les sites dignes de protection. On dit bien que la norme et son texte sont des deux niveaux séparés, mais on s'arrête en bout de chemin. Parce qu'au fond, quand on dit que la norme est le sens du texte, on ne fait pas autre chose que reformuler un autre texte pour désigner une autre norme. Les juristes travaillent constamment avec des textes. Ils écrivent, ils lisent, ils parlent, ils écoutent du moins. On le souhaite, ça c'est une autre question, mais ils travaillent toujours avec des textes. Et c'est en travaillant avec les textes qu'on produit des normes. Mais c'est le travail des textes sur les textes, grâce aux textes qui produit la norme. Dans ce sens, source du droit, je reviens à ce terme, source est une métaphore. Et comme toutes les métaphores, il faut savoir les utiliser. Et il faut aussi savoir les filer. Je m'explique. Si je prends le Rhône, la source du Rhône, c'est un glacier. Un glacier dans les Alpes suisses, dans le massif du Gothard. Puis l'eau coule jusqu'à la Méditerranée. Mais cette eau qui coule, ce qui en reste en quantité à l'embouchure, c'est une toute petite partie par rapport à tout ce que ce fleuve a reçu. Et à tel point que, au fond, désigner le Rhône depuis son glacier jusqu'à l'embouchure, c'est une figure de style en l'appelant Rhône, hein, à Marseille. C'est une métonymie, c'est-à-dire on désigne le tout par une partie. On désigne le tout par la partie qui est la source glaciaire. Et donc, au fond, le Rhône contient toutes les eaux du bassin hydrographique du Rhône. Alors, l'article de loi, c'est la source glaciaire. C'est le moment où la norme apparaît. Mais après, elle continue de couler, exactement comme le Rhône. Et les normes ont toute une histoire. Et à chaque moment où on applique une norme, c'est une histoire qui s'est déroulée et qui va continuer. Au fur et à mesure de son développement et de son application, elle passe d'étape en étape, d'application en application, jusqu'à être vraiment un très grand cours d'eau. Et notamment, ce faisant, cette norme d'origine simple, elle s'enrichit de toutes les mineures qui ont été élaborées sur la base du texte de référence. Toutes les mineures, petit à petit, on va pouvoir ainsi dire il y a acte fautif, par exemple, etc. Jusqu'à ce qu'on... Et ainsi on constitue ce que, en référence à Umberto Eco, on pourrait appeler une logique de l'encyclopédie. Tous ces mineurs sont des cas de la norme et forment l'encyclopédie de la norme. Contrairement à l'interprétation de la norme, qui est une logique de dictionnaire, où on substitue la définition au défini. D'ailleurs, je ne sais pas, il faut que je raccourcisse. Oui, d'accord. Donc on arrive à une toute autre conception du droit dans laquelle la jurisprudence devient une source, mais entre guillemets, devient une source en plein, puisque c'est elle qui élabore les mineurs. Et je dirais, on me l'a reproché, mais par rapport à un autre écrit, je dirais que même la doctrine est une source. Parce que sans ça, qui est-ce d'une juriste en lisant le journal officiel, elle recueille le bon? Personne. Hein? Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui organise, rationalise, systématise, définisse, oriente, etc. pour que le droit puisse s'enseigner et pour qu'il puisse s'apprendre. On apprend le droit, non pas en lisant ces textes que j'ai dit, mais en lisant la doctrine. À cet égard, l'opposition entre pouvoir et savoir est, à mon avis, fausse pour l'état actuel de notre droit. Ça n'a peut-être pas été faux il y a longtemps, ou il y a deux siècles, je crois, à peu près, deux siècles, que les juges ont été, petit à petit, suivant les pays, ça ne s'est pas produit à la même époque, ont dû motiver leur jugement. Ils ont dû motiver, ce qui montre bien que le savoir est une composante essentielle de ce à quoi nous sommes aboutis en Occident, l'état de droit. C'est une conjonction de compétences, de pouvoir et de savoir. Excusez-moi, j'ai été trop long. Je m'arrête ici, mais en remerciant encore Benoît Plessis de m'avoir fourni l'occasion d'enrichir ma culture juridique de manière aussi considérable.